le Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, bien sûr. Aujourd'hui, comment améliorer l'accès aux services essentiels dans les villes des pays en développement? L'eau, l'électricité, la gestion des déchets, l'assainissement, tous ces services sont rarement satisfaisants pour les usagers, surtout dans les quartiers précaires ou informels. Alors comment pallier les défaillances des infrastructures de base? Existe-t-il des expériences dans le monde où les habitants améliorent eux-mêmes la gestion de ces services? Impliquer les populations revient-il à dire finalement aux municipalités, aux États, aux politiques, ne vous inquiétez pas de rien finalement, on s'occupe de tout. Un message de désengagement, de privatisation rampante où seuls ceux qui peuvent payer vivent dignement? Ou bien existe-t-il une autre voie où les citoyens ont leur mot à dire sans être entièrement dépendants par exemple de l'aide humanitaire? Nous allons en discuter avec nos invités. Laure Criqui, chercheur en développement urbain à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi présidente du réseau Projection. C'est un réseau de jeunes professionnels qui travaillent sur l'accès aux services essentiels dans les villes en développement. Vous nous direz si justement les jeunes générations se sentent plus mobilisées, plus mobilisables pour changer le quotidien des familles. Guillaume Joss, vous êtes directeur général du groupe 8, qui est un bureau d'études spécialisé dans le développement urbain et municipal dans les pays du Sud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe urbaniste de formation. Philippe Deroux, cofondateur de l'ONG Eau et Vie. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez équipé maintenant en eau potable, eau courante, au domicile des gens. Combien de foyers à travers les Philippines, le Bangladesh et maintenant aussi la Côte d'Ivoire
hein. Alors, la Côte d'Ivoire, on démarre tout juste.
Tout juste, oui.
C'est 20 000 personnes tous les jours qui boivent de l'eau au robinet que nous avons installé.
Vous nous direz comment vous avez fait, parce que je pense que ça va intéresser nos auditeurs. Et dans votre ville, justement, les voisins, ou votre quartier, les habitants sont-ils mobilisés d'une façon ou d'une autre pour améliorer les services de base? Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On entendra également en deuxième partie d'émission un reportage dans un bidonville de Nairobi. Une entreprise sociale créée par de jeunes Américains installe des toilettes à prix coûtant et se paye en revendant les excréments pour faire de l'énergie. Comme quoi les métiers sales ne sont pas forcément ce que l'on croit. Je vous lis les messages d'Adilou, par exemple, qui nous écrit de Yagoua, du nord du Cameroun. Pour pallier ces manques, nous dit Adilou, les citoyens doivent monter des projets. Les municipalités doivent aussi absolument leur apporter l'appui financier dont ils ont besoin. Alors on en parlera évidemment, qui doit payer quoi, comment, pourquoi. Landing est à Dakar, il nous dit difficile de comprendre que dans un même pays, chez moi, une partie de la population puisse disposer de tout alors que la majorité est oubliée. Les années passent et se ressemblent, sinon que les dernières années sont encore plus difficiles que les précédentes. Aboubakar à Agadez, au nord du Niger, nous dit la Nigelec, la société nigérienne d'électricité, ne peut pas fournir d'électricité au nouveau quartier d'Agadez. Alors, les coupures sont fréquentes et la population, nous dit Aboubakar, ne réagit même pas. Fortuna, à Abidjan, dans mon quartier à Abidjan, il ne dit pas quel quartier. Bon, depuis plus de 4 ans, il y a un véritable problème d'eau courante à cause des canalisations. Il est temps de libéraliser le secteur de l'eau courante en Côte d'Ivoire, c'est impératif. Quant à la gestion des ordures ménagères, au-delà de la sensibilisation, je crois qu'on doit en faire une discipline, enseigner le tri dans nos écoles et Abidjan sera propre. Il faut que la population et l'État unissent leurs efforts sur la libéralisation de l'accès à l'eau, de la commercialisation de l'eau. Vous avez un point de vue peut-être, Guillaume Joss? Non, je ne sais pas.
Sur la commercialisation, oui. Sur l'eau, comme à peu près tous les services, il y a une chose qui est extrêmement simple à comprendre, c'est que personne ne peut se payer tout seul son propre réseau. Donc c'est nécessairement une démarche collective, quelle que soit l'échelle, à l'échelle de la ville ou à l'échelle du pays.
C'est clair, on peut payer à la limite son raccordement,
exactement.
Mais il faut un réseau,
et donc
il faut
y a un moment,
au moins à quelques mètres de la maison, on est d'accord.
Où on doit s'organiser collectivement, pas forcément de manière publique, ça peut être privé aussi. Hein. Mais en tout cas, il faut que tout le monde se mette d'accord sur le niveau de service et qui paye et comment on paye.
Ouais. Sans Philippe ça, Dereau, on va pas y arriver. Qu'est-ce que vous pensez de ce message de Fortuna à Abidjan?
Ce que je pense, nous on travaille dans des quartiers précaires, donc aux Philippines, au Bangladesh et donc bientôt en Côte d'Ivoire. Ce que les gens, ils savent très bien que ce qui est gratuit n'est pas durable. Ils ont vu passer trop de choses. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que non seulement c'est pas durable, mais en plus ça devient beaucoup plus cher derrière, parce que derrière vous avez des revendeurs. Alors, soit illégaux, soit informels, ça dépend comment ils appellent, mais des liens complexes.
Ouais, qui et le résultat. Sur des charrettes, des petits sachets d'eau à prix d'or.
Bah, aux Philippines, typiquement, c'est 3 $ du mètre cube. On vend, nous, 1 $ du mètre cube. Et quand vous êtes connecté au réseau, c'est 20 cents du mètre cube. Donc, pour donner une idée, donc toujours le même problème. Je travaille longtemps dans la question du microcrédit. Plus vous êtes pauvre, plus vous payez cher. Parce qu'il n'y a pas de système adapté au mode de vie, à la manière dont justement fonctionnent ces personnes. Et donc voilà, c'est ça à quoi il faut répondre.
Laure Criqui.
Oui, moi je voudrais... Il me semble qu'en fait, finalement, la question n'est pas forcément celle de savoir si le distributeur est privé ou public. En fait, la question, c'est de savoir si on a une bonne gestion.
Il y en a quand même qui est là à but lucratif, quand même.
Tout à fait.
C'est pas la même chose.
Tout à fait. Mais après, la question est de savoir aussi, de même, dès lors que, justement, les réseaux doivent être gérés de manière collective, hein, donc pour l'intérêt général, on peut tout à fait avoir des entreprises qui travaillent en partenariat avec les municipalités pour arriver à développer des services qui sont bons
pour
tout le monde.
Grandes entreprises privées, pour enrichir des actionnaires, quand même, à la base. C'est quand même pas la même chose qu'un service public.
Sauf que s'ils ne cherchent que à satisfaire leurs actionnaires, leur réseau ne sera pas soutenable sur le long terme.
Bon, alors bien sûr, vous nous appelez si vous êtes habitant dans un quartier où l'accès à l'eau, à l'électricité, à la gestion des déchets ne vous satisfait pas. Est-ce que vous observez une mobilisation autour de vous? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
On est en ligne avec une auditrice qui nous appelle de Libreville, au Gabon. Bonjour Marina.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins, bonjour les voisines.
Alors vous habitez dans une ville où il y a eu, évidemment, il y a une grosse croissance urbaine, même si le pays n'est pas un pays particulièrement peuplé en Afrique, mais Libreville vit de grosses transformations ces dernières années.
Bien sûr, avec le plan du président du Gabon émergent. Et donc, par rapport à ce problème d'électricité et d'eau au niveau de Libreville, déjà que la problématique, elle est un peu la même en Afrique. Mais ce qui est dommage, c'est que pour des pays dotés d'un potentiel naturel en cours d'eau, comme au Gabon, c'est inconcevable que le gouvernement ne s'implique pas assez dans cette fourniture en eau et en électricité. Et ici, au Gabon, seuls 3 barrages hydroélectriques fonctionnent correctement et alimentent l'ensemble du pays pour une production d'environ 260 MW. Et c'est vraiment pas suffisant pour un pays qui vise l'émergence et donc l'industrialisation, d'autant plus qu'on sait que l'industrialisation s'accompagne d'un accroissement de la consommation d'électricité.
Donc ça veut dire quoi au niveau de votre quartier, par exemple, Marina? Je ne sais pas où vous habitez.
Au niveau des quartiers, en fait, il y a des quartiers où l'eau n'arrive pas et d'autres où il faut se réveiller un peu plus tôt, très tôt, 4 h du matin, pour pouvoir recueillir quelques récipients d'eau.
Oui, vous avez dit au Standard que récemment, votre sœur a accouché, que l'hôpital ne disposait pas d'eau, qu'il fallait que la famille amène elle-même de l'eau. On a du mal à y croire quand même.
Bien sûr, c'est comme ça et c'est fréquent.
Donc, vous voulez dire l'eau pour les malades, c'est-à-dire pour la toilette, pour le tout venant?
Bien sûr, il n'y a pas d'eau. Lorsque des femmes accouchent, parfois on demande aux familles d'apporter de l'eau. Et dernièrement, il a fallu que l'on apporte 40 litres d'eau de la maison pour la toilette de ma soeur qui venait d'accoucher. Et même pour les sanitaires, lorsque vous partez, vous êtes dans l'hôpital, vous avez un besoin pressant, on vous dit que les sanitaires ne sont pas accessibles parce qu'il n'y a pas d'eau.
Dans un hôpital de Libreville?
Dans un hôpital de Libreville.
Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, les habitants? Est-ce que vous ressentez le besoin de vous mobiliser, mais dans le sens positif du terme?
Oui, se mobiliser, mais il faut avouer que concernant l'électricité, la population est quasiment mais liée parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas assez d'initiatives que l'on peut prendre de ce côté-là. De la collecte des déchets, mais du côté de l'eau et de l'électricité, la population est quasiment m'être liée.
Oui. Merci beaucoup de nous avoir appelé pour ce témoignage, Marina, de Libreville au Gabon. Laure Criqui, Guillaume Josse, Philippe Dereau, vous vous êtes réunis ce matin à Paris pour une conférence qui était organisée par le think tank Ressources, qui est un think tank inspiré par le groupe Veolia sur l'accès aux services essentiels. Que vous évoque là le témoignage de Marina, Philippe Dereau?
Ben, en fait, on est affaire à un phénomène d'urbanisation qui est énorme. C'est-à-dire qu'on a 50%, et là je parle sous contrôle de l'urbanisme, 50% de la population actuelle est urbaine. On sera 75% en 2050. On évalue à 40% de la croissance urbaine dans les bidonvilles. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Bah que du coup, il y a un problème, il y a une question d'investissement, il y a une question d'investir dans des canalisations, dans des usines de retraitement, etc. Et que l'enjeu est énorme. Nous, on travaille par exemple à Dhaka, c'était
au Bangladesh,
c'était 400 000 habitants en 1947, c'est 15 millions d'habitants aujourd'hui, c'est 2000 familles qui arrivent tous les jours de l'exode rural dans un pays. Alors pour nos amis africains, le Bangladesh, c'est grand comme le Benelux et il y a 164 millions d'habitants et un tiers du pays n'est pas habitable. Donc les enjeux sont colossaux. Voilà, ça, c'est ça que ça m'inspire. Et du coup, de dire qu'effectivement, les solutions sont collectives. Les solutions relèvent aussi du changement de culture et de se dire qu'il faut que tout le monde soit inclus, justement, dans ces villes. Parce que si vous n'êtes pas inclus, ben, par exemple, les quartiers prioritaires s'occuperont des réseaux à leur manière. Et donc, avec les problèmes de contamination, de baisse de pression, etc., qu'on peut constater dans beaucoup de villes.
Guillaume Josse ?
Oui, le témoignage est intéressant parce que finalement, il résume très bien la situation. On est dans un pays, le Gabon, où il y a de l'eau. Effectivement, pour prendre que la question de l'eau. Mais pour amener l'eau au domicile, ça passe par des infrastructures qui ne peuvent être financées et payées que par la collectivité. Alors, l'auditrice parlait de l'État, mais l'État, c'est aussi les citoyens. Donc, c'est aussi dans quelle mesure est-ce que l'ensemble de la collectivité peut contribuer et peut payer des investissements qui sont forcément très lourds. Et la mobilisation, elle ne peut pas être technique. Ce n'est pas un quartier qui va aller construire un barrage. En revanche, elle peut être politique, elle peut être sociale, elle peut être sur faire pression sur les acteurs pour essayer d'enclencher des politiques qui sont des politiques à long terme, forcément. C'est bien que ça prend 10 ans, peut-être 15 ans.
Mais alors, à l'heure actuelle, par exemple, si on reste sur l'eau, hein, bien sûr, mais vous pouvez aussi nous appeler pour nous parler de l'électricité, de la gestion des déchets, de l'assainissement en général. Mais si on reste sur l'eau, Laure Criqui, c'est vrai qu'il y a quand même des canalisations. Il y a, par exemple, des tentatives d'installer dans des quartiers précaires des bornes fontaines en partant du principe qu'amener l'eau au domicile des maisons, des familles, c'est trop coûteux. Mais au moins, si on a des réseaux de bornes fontaines bien gérés, ça peut fonctionner dans les quartiers précaires. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, tout à fait. C'est une solution qui n'est pas forcément la solution miracle ou la solution définitive. Cela dit, effectivement, c'est un système qui permet d'avoir un accès à l'eau collectif. Et donc, pour cela, ça suppose du coup d'avoir une certaine organisation des habitants ou de responsables de quartier, etc., pour arriver à gérer ces fontaines. Et gérer ces fontaines, ça veut dire à la fois arriver à faire tout ce qui va être l'entretien et la maintenance technique pour que ça reste propre, pour que ce ne soit pas contaminé par éventuellement des déchets à proximité, pour qu'il n'y ait pas de dépôts d'eau autour des fontaines qui vont attirer les moustiques aussi, etc. Donc il y a toute une question d'hygiène et d'entretien de ces bonnes fontaines. Et il y a aussi une question de gestion financière de ces bornes fontaines. Comment est-ce qu'on fait pour que les voisins arrivent à payer leur consommation et qu'on arrive comme ça, éventuellement, ça peut arriver à générer un petit revenu local qui permette à des petits entrepreneurs éventuellement locaux d'avoir une petite affaire autour de ça, ou éventuellement de dégager des ressources pour d'autres types de projets pour améliorer l'état du quartier. Moi, j'ai pu voir à Lima des associations...
Au Pérou.
Des associations d'habitants qui, grâce à la vente de l'eau, finissaient par arriver à financer l'éclairage de leur terrain de foot.
Oui, mais justement à Lima, c'est une ville où petit à petit les habitants s'étaient désengagés ces dernières années ou pas. Est-ce que le fait que quand on a un service public d'eau qui prend les choses en main, est-ce que parfois ça ne crée pas un désengagement du côté des habitants ?
Alors, finalement non. Les habitants restent extrêmement mobilisés. Ils sont peut-être un petit peu moins engagés sur tout ce qui va être justement l'entretien et la gestion quotidienne du réseau ou des bornes fontaines ou des canalisations, mais ils restent extrêmement vigilants dans la manière dont l'opérateur, qui est une entreprise publique, va arriver à apporter le réseau. C'est-à-dire que quand les ingénieurs de l'entreprise viennent pour relever les compteurs, ou pour éventuellement vérifier que le système d'égout n'est pas bouché, etc., les habitants restent extrêmement attentifs à la manière dont ces ingénieurs et ces techniciens viennent intervenir sur le réseau, parce qu'il y a ce sentiment de responsabilité collective pour que ça fonctionne bien.
Philippe Dereau, vous, qu'est-ce que vous pensez, puisque vous êtes votre ONG part du principe qu'il s'agit plus l'accès aux services essentiels part du principe qu'il faut installer de l'eau au domicile des familles et pas à des bornes fontaines. Pourquoi ?
Alors effectivement, nous, on part sur la gestion quotidienne à domicile, parce que la borne fontaine, vous ne résolvez pas le problème de stockage de l'eau, en particulier dans les pays chauds, qui est un vrai problème, du temps perdu, en particulier pour les femmes et les enfants. Au Bangladesh, aux Philippines, en moyenne 3 heures par jour de gagner avec de l'eau à domicile. Donc c'est énorme comme impact social dans la vie quotidienne des gens. Et troisième chose, il y a souvent, mais ça dépend, hein, autour des bornes fontaines, des conflits d'intérêts dans la gestion de la borne, à la fois sur la manière de gérer la maintenance, de payer la facture. Et moi, l'expérience montre dans les différentes villes où on travaille que souvent, il y a des impayés très importants et que du coup, l'opérateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il a tendance à refermer. Du coup, les piratages illégaux se refont, etc. Mais pour revenir à la question justement politique dont vous parliez... Nous, notre constat, c'est que souvent, les quartiers précaires ne sont pas dans la priorité immédiate des hommes politiques. Pourquoi ? Parce que y a déjà un tel enjeu sur le reste de la ville, une telle croissance, etc. Et puis, il y a toujours des enjeux fonciers. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces bidonvilles ? Est-ce qu'on va les garder ? Est-ce qu'on va les enlever ? Etc. Et nous, tout notre travail est vraiment de faire prendre conscience aux responsables politiques, en lien avec l'opérateur d'eau, qu'il faut gérer la ville dans son ensemble, et qu'on ne peut pas se permettre, et là moi j'ai fait 10 ans de plomberie, donc je parle un peu en tant que plombier, gérer un réseau, c'est le gérer dans son ensemble, parce que si on n'en gère pas un bout, et les habitants des quartiers informels vont le gérer à leur manière, avec des fuites, des problèmes, etc.
Mais en même temps, les municipalités disent, mais comment voulez-vous qu'on fasse de l'assainissement, qu'on installe des canalisations dans des quartiers qui poussent comme des champignons, sur lesquels on n'a rien contrôlé, où les gens se sont installés alors que rien n'était prévu, et en dehors de notre volonté, et donc de notre planification. Guillaume Joss.
Oui, c'est une bonne question, mais le problème, c'est le choix. Ces gens n'ont pas eu le choix. Effectivement, ils sont venus s'installer à un rythme effréné que aucun continent n'a connu. Je pense notamment à l'Europe au 19e siècle, on avait des taux de croissance bien inférieurs. Bref, les quartiers, effectivement, poussent comme des champignons, sauf qu'aujourd'hui, la plupart seront là pour 50 ans, peut-être 100 ans. Donc, il faut un moment changer un peu de regard et se dire, ces quartiers, ils sont là, il faut les équiper. La question de la mobilisation de la population, ça revient aussi à cette question de choix. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'habitants, moi, pour en avoir parlé avec pas mal dans beaucoup de quartiers, à Port-au-Prince, par exemple, en Haïti ou à Djibouti, ces gens aimeraient ne pas être mobilisés. Ils aimeraient aussi que les autorités se mobilisent.
Ils aimeraient tout simplement ouvrir le robinet le matin et pas se poser de questions.
Exactement. Et ceux qui veulent se mobiliser aimeraient pouvoir le faire. Mais là, ils n'ont pas le choix. Ils savent que s'ils ne se mobilisent pas politiquement ou socialement, ils n'auront rien. Donc il y a aussi. Alors on peut entendre ce que disent les municipalités. Elles n'ont pas de moyens. Effectivement, elles sont face à un enjeu qui est absolument colossal et bien au-delà de leur capacité actuelle. C'est là où peut-être qu'une des solutions, en tout cas, il y a un moment où l'ensemble de la communauté internationale devra se mobiliser, parce que, in fine, des services, ça coûte de l'argent partout. Ça, c'est obligatoire.
Juste un petit ajout, ce qu'on note aussi, c'est qu'à partir du moment où on a justement ce discours de vérité sur la question de qu'est-ce qu'on fait de ces endroits, et que finalement, ce sont des quartiers qui ont aussi des choses à dire à la ville, dans la manière dont ils développent, il y a beaucoup d'humanité sans être naïf dans les relations, dans les choses qui se passent dans ces quartiers-là, et que finalement les responsables politiques sont prêts, tout à fait prêts à l'entendre. Et moi je vois en Côte d'Ivoire, donc on a travaillé quasiment depuis un an sur ce sujet, on a vraiment une mobilisation
sur
globale.
Sur quelle ville plus précisément ?
Sur Abidjan. Donc c'est un scoop, puisqu'on vient de signer donc, avec le ministère des Infrastructures, avec l'ONEP, l'Office National de l'Eau Potable, avec la SODECI, qui est la compagnie des eaux, et puis la mairie de Yopougon. Ouais. Donc là, c'est vraiment... On sent qu'il y a une vraie envie, quoi.
Et alors, en tout cas, nos interlocuteurs... Vous allez dire, juste après le flash, dans quelques minutes, comment vous comptez vous y prendre pour amener à un prix, évidemment, intéressant, de l'eau potable dans les maisons. On se retrouve juste après le flash, dans un peu plus de 3 minutes.
Voici la 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Comment améliorer l'accès aux services essentiels dans les villes? 70% de la population mondiale, je vous le rappelle, vivra en ville d'ici 30 ans. Alors les habitants doivent-ils se mobiliser? Évidemment, là on parle des villes en développement où l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement, à la gestion des déchets laisse largement à désirer, en témoignent vos nombreux messages. Et si oui, comment se mobiliser en tant qu'habitant? Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On en discute avec Laure Criqui, qui est chercheur en développement urbain, Philippe Deroux, cofondateur de l'ONG Eau et Vie, et Guillaume Josse du bureau d'études spécialisé dans le développement urbain et municipal dans les pays du Sud. Votre bureau d'études qui s'appelle Guillaume Josse.
Groupe 8.
C'est ça, groupe 8. Tout de suite, je vous propose un reportage que vous allez évidemment commenter. Nous sommes à Nairobi, ville de 4 millions d'habitants. 60% de la population vit dans des bidonvilles, ça veut dire sans égout ni eau courante. La pollution plutôt, est une cause majeure de maladies et d'inconfort. Les toilettes publiques ou privées sont mal entretenues, les fosses septiques vidées au mieux une fois par an. Bref, ça sent dans les bidonvilles de Nairobi. Voilà pourquoi l'histoire de cette entreprise sociale Sanergy est intéressante, fondée par trois Américains passés par le MIT, l'une des plus prestigieuses universités américaines. Cette société Sanergy vend depuis 5 ans des toilettes sèches munies de petits conteneurs sous la marque Fresh Life à des opérateurs franchisés, un peu comme des revendeurs d'unités de téléphone finalement, dans les bidonvilles. Sanergy emploie aujourd'hui 250 personnes et ses 625 toilettes Fresh Life sont utilisées tous les jours par 30 000 personnes. Cette année, l'entreprise prévoit de vendre 4200 tonnes d'engrais bon marché à 220 fermiers kényans, issus évidemment de la récupération des toilettes. Pour comprendre le succès de Sanergy, notre reporter Bruno Meyerfeld s'est rendu à Mukuru, l'un des deux bidonvilles de Nairobi où opère Sanergy.
Donc là, on est au milieu du bidonville. Au milieu des baraques en tôle, ondulées, très abîmées, grises, des routes en terre et en sable. Il y a une sorte de petit égout qui passe au milieu de la rue. C'est l'après-midi, il y a du monde. Et au milieu de toute cette grisaille, au milieu de la tôle, on trouve une petite baraque en béton, bleu fuchsia, avec un grand soleil peint en jaune. Et dessus écrit « Fresh Life », 5 shillings.
Je m'appelle Joseph Kamau Macharia et là vous êtes devant mes toilettes Fresh Life.
Est-ce que vous pouvez nous montrer l'intérieur des toilettes? Donc on est devant les toilettes, il y a une petite ampoule qui brille, c'est très propre.
Oui, je travaille main dans la main avec Sanergy. On fait très attention à ce que mes toilettes restent propres. Ils viennent d'ailleurs sans arrêt me voir pour me donner un coup de main.
Pour rendre ça propre, on voit que vous avez des petites serviettes, du papier toilette, du savon.
Oui, tout ce que vous voyez ici a un but. D'abord, j'ai du papier, une ou deux feuilles en fonction du besoin. J'ai un lavabo pour se laver les mains et puis plein de savons avec des odeurs différentes selon les préférences de mes clients.
Combien de gens utilisent vos toilettes tous les jours?
40 à 50 personnes en moyenne. Pour les enfants, je fais payer 2 shillings, 15 centimes d'euros. Les adultes, eux, payent 5 shillings, soit à peu près 50 centimes d'euros. Et si j'ai des clients qui viennent et qui n'ont pas d'argent, je ne les fais pas payer.
Une jeune femme s'approche de nous pour utiliser les toilettes.
Je m'appelle Sharon Achieng. Je suis étudiante, j'habite par ici, pas loin dans le bidonville. Avant Fresh Life et Sanergy, on avait accès qu'aux toilettes publiques, celles construites par la mairie.
C'était cher avant?
5 shillings.
C'est le même prix, mais la qualité est bien meilleure ici.
Oui, dans les toilettes municipales, l'odeur était insupportable. C'était des toilettes à l'eau, pas sèches comme ici, et parfois il n'y avait pas d'eau, donc les excréments restaient là pendant longtemps.
Et avant, il fallait aller beaucoup plus loin, il fallait marcher beaucoup pour arriver aux toilettes?
Oui, les toilettes de Sanergy sont tout près. La distance était un problème avant pour aller aux toilettes, parce que dans le bidonville, la nuit, il y a des voleurs, et c'est très dangereux de marcher longtemps. En plus, souvent, il y avait beaucoup de monde et on attendait très longtemps pour passer aux toilettes, parfois jusqu'à 20 minutes.
Oui, c'est beaucoup. Si vous avez la diarrhée, c'est pas facile. Et avant, il y avait aussi ce qu'on appelle les flying toilets.
Oui, les toilettes volantes. C'est quand vous mettez vos excréments dans un sac plastique, puis la nuit ou tôt le matin, pour ne pas être vu, vous les jetez par la fenêtre, dans la rue ou dans une rivière. C'était vraiment dégoûtant.
Donc, la visite des toilettes terminée, on part vers le quartier général de Sanergie. En voiture, à un gros quart d'heure de route.
Je m'appelle Emmanuel Bertrand, je suis en charge des partenariats extérieurs et du développement stratégique pour Sanergie.
Il y a des ouvriers, il y a des blocs de béton, qu'est-ce qu'on a autour de nous ?
Autour de nous, on a notre site de production. Nos toilettes sont assemblées sur site, donc en fait on les produit en pièces détachées. Et en fait les toilettes Fresh Life ont plusieurs caractéristiques propres. Le fait qu'elles soient bleu vif, résonnait pas mal dans la communauté comme quelque chose de frais et propre. On a un système de séparation de l'urine et des matières fécales, parce que ça permet d'avoir une collecte et un traitement beaucoup plus facile des déchets quand c'est pas mélangé. Donc nos équipes ramassent les déchets tous les deux jours. On veut pas qu'ils aient le problème de se retrouver en contact direct avec les déchets. Et donc on a un système de cartouches fermées qu'on scelle deux fois avant de les transporter. On a du carrelage sur le sol, ce qui permet d'avoir un entretien facile, mais aussi un sentiment de durabilité et un sentiment de confort que les gens n'ont parfois pas chez eux. On a un miroir sur la porte qui permet d'avoir un petit moment de coquetterie le matin avant de partir au travail. On a un porte-manteau, du papier toilette, de l'eau, du savon systématiquement, une poubelle. Et on a de la cire de bois pour mettre sur les matières fécales, en fait, ce qui permet de cacher et la visibilité et l'odeur pour les autres usagers.
Je m'appelle Medora Brown et je suis en charge de la communication à Sanergie. Nous sommes ici dans le labo de Sanergie où nous faisons toute notre recherche pour voir comment convertir les excréments en produits commercialisables.
Combien est-ce que vous vendez vos toilettes aujourd'hui ?
Nos toilettes commerciales, nous les vendons $350. Cela inclut une formation initiale et une année de collecte des excréments. Après cette année, les opérateurs de toilettes Fresh Life doivent nous verser entre 50 et $80 par an pour la collecte.
$350, c'est beaucoup. Comment est-ce que des gens dans les bidonvilles peuvent acheter vos toilettes ?
We have a long-standing partnership with Kiva. Pour ça, nous avons un partenariat de long terme avec Kiva, une plateforme en ligne de microcrédit. Les futurs opérateurs peuvent obtenir des prêts avec taux d'intérêt nul.
Est-ce que vous gagnez de l'argent en vendant des toilettes ou est-ce que vous gagnez de l'argent en vendant de l'engrais ou du compost ou du biogaz ?
Nous vendons nos toilettes à perte, mais on gagne de l'argent en collectant et convertissant les excréments. On prévoit d'être rentable d'ici 2019.
Le futur pour Sanergie, c'est de dépasser les frontières du Kenya, d'aller dans d'autres villes, d'autres continents.
Nous avons recensé plus de 1000 villes dans les pays en développement où la démographie et les infrastructures urbaines pourraient permettre l'implantation de toilettes Fresh Life. Mais notre objectif, c'est de développer un véritable modèle économique qui puisse servir à des organisations ou des entreprises qui pourraient fonctionner partout dans des endroits où nous n'avons pas accès et où même nous, nous n'irions peut-être pas.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, de cette entreprise sociale, Guillaume Josse ?
Déjà, elle a le mérite de s'intéresser à deux choses fondamentales. Un, les pires quartiers de Nairobi, qui sont parmi les pires d'Afrique. Donc déjà, c'est salutaire que des entrepreneurs s'intéressent à ces quartiers. C'est pas si courant. Et deuxièmement, elle s'intéresse à un problème qui est colossal, qui est la question de l'assainissement. Qui est, alors, objectivement, un peu le parent pauvre de tous les services essentiels. Parce qu'autant, je ne dis pas que c'est facile, mais on arrive à développer l'eau potable, l'électricité, on y arrive à peu près. Le drainage et les routes, on sait à peu près comment faire. Honnêtement, l'assainissement, on a beaucoup de mal. Pour, à mon avis, une raison assez simple. Alors, il y a déjà des questions techniques dans des milieux très, très denses. Où est-ce qu'on fait passer les tuyaux ? Où est-ce qu'on peut mettre des toilettes ?
Là, on court-circuite, effectivement, le manque d'infrastructures, hein, avec des toilettes sèches qui sont autonomes.
Dans ces quartiers, on appelle ça les flying toilettes. Oui. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on prend un sachet plastique et on l'envoie sur le toit.
C'est ce que disait un des habitants, d'accord. Mais sauf que là, effectivement, bon, ce sont des conteneurs qui sont autonomes les uns les autres, qui ne nécessitent pas de grands travaux étatiques d'infrastructures, etc. Est-ce que c'est viable ? Est-ce que ça peut être dupliqué ? Est-ce que ça peut être une voie ensuite pour arriver à des toilettes individuelles, bien sûr ?
Oui, c'est une voie, mais finalement, La question serait la même avec des grosses infrastructures classiques, c'est-à-dire la question c'est est-ce que dans 20 ans c'est encore rentable, au sens est-ce que c'est pérennisable, est-ce que ce qu'on récolte d'un côté sert à couvrir les dépenses.
Ouais, on est bien d'accord que quand on dit rentable, ça veut dire pérenne pour les habitants.
Exactement, hein. Ça veut dire que la personne qui installe ses toilettes, elle doit pouvoir se payer au à minima, se payer pour pouvoir avoir envie d'en installer d'autres, etc. C'est ça la question.
Là, en l'occurrence, l'installation des toilettes ne rapporte pas d'argent à Sanergy. Ça rapporte un petit peu à ces petits métiers qui tiennent les toilettes, puisqu'il faut donc donner quelques pièces pour avoir le droit de faire ses besoins. Néanmoins, c'est la revente d'excréments qui rapporte. Pour l'instant, évidemment, le modèle n'a pas encore prouvé réellement sa rentabilité, Philippe Deroux.
Ben nous, évidemment, le modèle, moi j'ai rencontré des personnes de Sanergy, c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que nous, on est opérateurs d'eau, et donc la question d'être opérateur d'eau permet d'ouvrir avec cette gestion quotidienne, à proximité avec les gens, qui ont une relation de confiance. Ben, les sujets de l'hygiène, le lavage des mains, les sujets de la lutte anti-incendie, qui est un gros sujet au cœur des villes, le sujet des toilettes, le sujet de la collecte des déchets. Et on est assez confiant aussi sur le fait qu'on peut faire des systèmes qui soient pérennes, mais typiquement l'investissement lui-même de l'infrastructure. Ça, c'est pas amortissable, c'est pas rentable. En revanche, ce qui peut être rentable, c'est effectivement le nettoyage, la petite vente de petites choses, de produits d'hygiène, etc. à proximité. Ça peut fonctionner. Moi, il y a quelque chose auquel je crois assez peu, c'est la question du compost. Je crois que, en tout cas, nous, dans les villes dans lesquelles on travaille, s'il faut faire 2 heures de camion pour amener du compost dans des champs à 2 heures, je pense que c'est recréer des réseaux qui, finalement, ont disparu dans des villes qui sont extrêmement denses. Et ça, j'y crois moins. Et
dernière chose, sur des gros volumes, en tout cas, vous pensez que
ouais, c'est des volumes. Bon, après, il y a une question. Moi, ce que je pense, c'est que c'est aussi un moyen pour nous d'être une prise de conscience, d'être un changement de culture vis-à-vis des autorités publiques, qu'elles comprennent que les solutions sont possibles, on se rend indispensable. Ça permet, en marchant, que les gens se mobilisent et prennent conscience des choses et fassent derrière pression auprès de leurs élus pour qu'ils prennent le relais. Parce qu'à terme, je veux dire, en France, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dans votre facture d'eau, en moyenne, on paye 5 € du mètre cube, vous avez un bout pour l'assainissement.
Mais là, est-ce que ce n'est pas une façon de dire aux élus, non, mais vous pouvez vous désengager, dormez tranquille, regardez,
justement,
on
c'est
prend
le contraire.
Tout en main, là, finalement.
C'est le contraire. C'est leur dire, il faut que vous bougiez. En fait, on y va maintenant parce qu'il y a une urgence, il faut y aller, quoi. Et puis si on attend que ça se passe, ça ne se passera pas. En revanche, à moi, il faut que vous bougiez, quoi.
Laure Criqui.
Oui, sur cette question de l'assainissement, il me semble qu'il y a aussi, encore une fois, c'est le parent pauvre des services. Et justement, il est extrêmement important d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur cette question. Nous avons, avec le réseau Projection, un projet de renforcement de capacité des vidangeurs manuels à Ouagadougou, qui sont donc, finalement, des travailleurs...
Les vidangeurs de fosses sceptiques. Hein.
Tout à fait. Qui sont des travailleurs qui sont... très largement ignorés par la municipalité, qui justement, une fois qu'ils vont chez les gens dans les quartiers très denses où les camions ne peuvent pas rentrer, où les canalisations, n'en parlons même pas, qui vont donc avec leurs brouettes et qui ensuite, du coup, doivent évacuer ce qui s'appelle ces bouts de vidange et ces excréments, sont obligés potentiellement de sortir de la ville et d'aller très très loin. Et là, il n'y a pas d'articulation justement avec les sites officiels. Et donc là, il y a tout un travail justement pour faire prendre conscience aux autorités locales, qu'il y a plein de petites initiatives, il y a plein de
Mais
travailleurs.
Mais en quoi la population peut faire prendre conscience aux autorités, vis-à-vis des municipalités? Elle paye le vidangeur, donc tout est individualisé finalement dans le mécanisme. Elle se fait débarrasser de ses excréments, le vidangeur gagne sa vie, et après effectivement rien ne fonctionne de l'autre côté, sur la suite de la chaîne. Mais finalement tout le monde s'en fiche, non?
Non, mais nous, ce n'est pas le cas. Pourquoi, par exemple, à Dakar, qu'est-ce qui s'est passé? La municipalité, quand vous sortez les déchets, il faut bien les mettre dans une zone de transfert qui soit fermée. Bon, et bien là, qu'est-ce qui s'est passé? À force de plaidoyer, de faire prendre conscience des choses, de mobilisation des gens, qui sont d'ailleurs des électeurs, les gens le comprennent aussi, ils ont fait, à leurs frais, une station de transfert. Et il faut aussi qu'il y ait un camion qui vienne régulièrement, que ça ne soit pas genre on ne sait jamais quand. Et donc, il y a eu tout un travail. Et c'est là où le travail est très politique aussi. Et on le fait main dans la main avec des gens qu'on considère. Et puis, on n'est pas là à se regarder en chien de faïence. On travaille ensemble. Et le fait de travailler ensemble, finalement, on s'aperçoit que il y a des solutions. C'est possible, ça avance.
Très concrètement, comment vous allez installer de l'eau à Yopougon, raccordement au domicile, et comment ça va être facturé sur le projet sur lequel vous travaillez à Abidjan?
Alors là, c'est très simple. Il faut travailler d'abord en amont avec, avec les communautés pour que le projet soit accepté. En général, ça va assez vite parce que l'eau est de mauvaise qualité, il y a des revendeurs, du piratage, etc. Mmh. Et puis, c'est des zones sur lesquelles personne ne veut vraiment investir. Parce qu'on dit, bah, c'est des pauvres, ils ne vont jamais payer, ça ne se passera pas bien, etc. Après, la deuxième étape, c'est de dire, voilà, vous êtes un opérateur d'eau, il faut se connecter au réseau. Souvent, il y a des problèmes de pression. Il n'y a pas suffisamment d'eau déjà pour la ville classique. Et on dit, oh, on ne va pas donner en plus aux pauvres. Parce que oui, mais si vous ne donnez pas, c'est eux qui vont venir vous pirater la nuit, ils vont ouvrir la route, ils vont planter leurs tuyaux, etc. Bon. Donc, il faut y aller. Et donc, c'est toute la négociation. Mais en général, ça se comprend assez vite et les gens sont contents parce que, d'un point de vue, enfin, l'opérateur est content. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'avoir 100 clients qui ne payent pas et puis 1000 qui tirent derrière, et ben, il a un client qui paye, qui prend en charge les problèmes de repaiement, de remboursement, etc. Et les pertes d'eau. Il va gagner énormément parce qu'il va augmenter son chiffre d'affaires. Ces pertes d'eau qui sont alors de 80% parfois.
Ouais, énorme, les pertes d'eau
vont passer
via les canalisations,
énorme,
en fait. Hein,
qui fuient, les compteurs qui ne marchent pas, qui ne sont pas relevés, etc. Nous, on est aux alentours de 8-9%. Hein, donc c'est vraiment
comment vous faites
ben, comment on fait ? Ben, parce qu'on a une relation très proche avec les gens et surtout, on va collecter, on va relever les compteurs tous les jours avec des compteurs qui sont faits de manière particulière en armoire de compteurs qui sont sur des places publiques. Donc, on ne peut pas pirater ou difficilement. Et on va avoir des collecteurs qui sont issus des zones, on crée de l'emploi.
C'est ça,
qui
des vont petits métiers.
Voilà, qui créent des métiers qui rapportent bien et qui vont aller tous les jours au domicile de nos clients pour collecter la facture de la veille, enfin, je veux dire, de la consommation.
Alors, on paye à quoi ? À la semaine, à la journée ?
Alors, ça dépend. Au Bangladesh, c'est à la semaine. Aux Philippines, on a démarré à la journée.
Parce que sinon, à la fin du mois, la somme est trop importante.
Exactement.
Les gens ne pourraient pas et les gens, parfois, sont payés, ce sont des journaliers, notamment en Asie.
Exactement, on s'adapte au mode au métier informel qui fait qu'on a un revenu tous les jours et donc il faut venir tous les jours. Et on en profite pour vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de fuite.
Alors, vous savez ce qu'on dit souvent dans les pays du Nord, hein, les associations de consommateurs, plus on achète petit, plus on paye cher. C'est le cas sur les unidoses, etc., par exemple. Est-ce que là, du coup, ça ne revient pas à vendre aux pauvres de l'accès aux services essentiels beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher encore ?
Alors, ouais.
Guillaume
Joss, non, trop cher, je ne sais pas. Plus cher, certainement un peu, mais moins cher que ce qu'ils ont aujourd'hui. Moi, j'avais travaillé à Port-au-Prince où l'eau potable, enfin l'eau de boisson, c'est-à-dire qui était achetée, même pas en bidon, mais en sachet, coûtait 600 fois plus cher que l'eau à Paris, l'eau potable qu'on avait au robinet. Par le projet qui avait été monté de desserte en bande fontaine dans des bidonvilles, on était arrivé à quand même un tarif bien inférieur. Là encore, c'est une question aussi de temps.
Mais, mais bien supérieur à un service public
Absolument.
Qui fonctionnerait normalement, comme
Absolument.
Ça a été le cas d'ailleurs par le passé.
Absolument. Tout à fait. Tout à fait.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à un auditeur qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Harry.
Oui, bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes le bien.
En fait,
on vous écoute Harry.
Oui, je suis à Yaoundé, présentement même à l'université de Yaoundé 1, au sein du campus. Et je suis étudiant en faculté de sciences humaines, option géographie environnement, où j'ai décidé donc d'orienter mon travail vers les énergies renouvelables.
Oui.
Et je suis aussi une formation professionnelle dans le domaine où je peux pas un diplôme de qualification professionnelle. Cependant, j'ai décidé de monter un projet qui concerne les mini-centrales solaires.
Oui.
Pour desservir dans des petites localités qui ont vraiment des gros problèmes, hein, parce que ici, nous vivons une carence accrue d'énergie.
Mais qu'est-ce que vous appelez petite localité ? Vous parlez du solaire pour éclairer des habitations dans des zones urbaines, dans des villes ou plutôt dans des zones rurales ?
À la fois, on peut l'utiliser puisqu'il est modulable, donc on peut l'utiliser en ville et en campagne. Moi, j'opte pour les campagnes parce que c'est elles qui ont le plus besoin.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Les villes ont des délestages, mais au moins elles ont de l'électricité quelques heures par jour. Enfin, bon, ça dépend où. Et donc, vous, c'est votre credo. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Il y a un auditeur qui nous a écrit un message de Ouagadougou qui dit vous êtes au courant qu'en mai dernier, il y a eu. Là, c'était sur les coupures d'eau, mais un auditeur qui dit moi, je ne veux pas payer pour la réfection des poteaux électriques de mon quartier. Je préfère m'équiper moi-même au solaire. faire. On peut se poser la question à l'heure actuelle, il y a une telle défiance des habitants, justifiée d'ailleurs, hein, vis-à-vis des équipements urbains, que ce soit d'ailleurs là l'eau ou l'électricité, que les gens préfèrent s'équiper. Alors avant, il y a le générateur évidemment, mais on sait que le générateur électrique, ça coûte quand même très cher en carburant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas, on ne va pas assister à une forme d'addition de politique de l'énergie individuelle au sein de chaque maison? Est-ce que c'est souhaitable ou pas d'ailleurs, Guillaume Josse?
Oui, enfin, moi je suis persuadé que oui, que dans le secteur de l'énergie, c'est faisable. Pas d'ailleurs qu'au Burkina Faso, hein, mais en France aussi. Il y a plein de gens qui commencent à se dire, si je m'équipe en panneaux solaires, je serai autonome et je ne dépendrai plus du réseau. Mais parce qu'avec l'énergie, c'est possible. C'est pas possible pour les routes, par exemple. C'est pas possible pour les déchets.
C'est pas possible, notamment, ce qui s'est passé en mai dernier à Ouaga pour les coupures d'eau, où on a des milliers de personnes qui ont été privées d'eau.
On peut pas imaginer que chacun ait un forage dans sa parcelle à Ouagadougou.
Exactement.
Par contre, on peut imaginer que chacun
a une trop petite capacité, oui. Ziga, et il y a des forages qui ont été laissés à l'abandon, etc. Donc là, retour à la case publique.
Absolument. Mais on peut imaginer que chacun à Ouaga, dans 10 ans, ait une mini centrale solaire sur son toit pour se fournir en électricité 24 heures sur 24.
Tout le monde ne dit pas que c'est viable, hein. Techniquement.
Petit témoignage encore à Dhaka, Bangladesh. En fait, les gens, à force, justement, que c'était des petits, chacun gère un peu dans son coin, etc., chacun va forer. Mais pourtant, le Bangladesh est connu pour ne pas manquer d'eau. Qu'est-ce qui se passe? La nappe phréatique, elle est de plus en plus basse, les forages sont de plus en plus. Ne fonctionnent plus, de plus en plus rapidement. Et donc, ça ne marche pas. Parce qu'il faut des investissements dans des réseaux primaires, dans des centrales de retraitement d'eau, etc. Et ça, c'est forcément quelque chose de collectif. Et c'est forcément quelque chose où l'État doit s'engager et où on doit vraiment réfléchir. Et je sens que, voilà, un projet commun, à qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, etc. Et ne pas se laisser bouffer par une culture un peu individualiste,
oui,
de ce point de vue-là.
D'autant plus que j'ai de l'argent, je m'équipe au solaire, je fais mon petit forage, je fais tout ça, tout marche bien chez moi. Mais pour les plus pauvres, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien.
Mais le forage, il ne marchera même pas. Ouais. Parce que la nappe, elle est à 300 mètres.
Laure Criqui.
Non, sans compter qu'en plus, effectivement, donc, l'énergie solaire est dans le domaine de l'énergie, une solution technique qui peut effectivement fonctionner au niveau individuel. Après, je pense que fondamentalement, il peut y avoir aussi toute une série d'innovations techniques qui commencent à se développer. On va avoir des valises qui permettent de potabiliser l'eau avec du solaire, etc. C'est-à-dire que quand il s'agit de gérer la ressource de l'eau ou gérer la gestion des eaux usées, des eaux sales, des déchets, etc., là, on est sur du collectif. Donc là, on va avoir besoin, effectivement, que l'État ou la municipalité s'implique pour arriver à coordonner peut-être toute une série d'initiatives et de solutions peut-être plus individuelles.
Finance aussi ?
Ça implique finance aussi, ouais, sur les grosses infrastructures.
Ouais. Alors, sans conclusion, qui doit payer ? Qui doit financer quoi ?
Mais de toute façon, personne ne peut créer de l'argent. Donc l'argent, il vient forcément de la population. Et il y a un moment où les riches doivent payer pour les pauvres. Les gens qui n'ont pas d'enfants à l'école doivent payer pour ceux qui ont des enfants à l'école. Ceux qui n'ont pas de voiture payent les routes pour ceux qui en ont. Ça s'appelle la contribution au budget, ça s'appelle l'impôt. C'est un peu un gros mot, mais il y a un moment où la péréquation, la mutualisation des ressources est absolument essentielle. Parce que quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est les gens qui habitent un territoire qui financent les services de ce territoire.
En tout cas, pour financer une partie. Et ensuite, pour l'arrivée jusqu'au domicile.
Après, on peut imaginer qu'effectivement, je paye la micro-entreprise qui va me collecter mes déchets chez moi et qui les met au centre de transfert. Je paye mon branchement, je paye ma latrine. En revanche, je ne vais pas payer la station d'épuration, je ne vais pas payer la décharge et je ne vais pas payer le barrage qui me permet d'amener l'eau.
Philippe Deroux.
Et encore une fois, si ce n'est pas géré, les problèmes de choléra qui peuvent se développer dans une zone d'un bidonville, c'est le problème de tout le monde. Toutes les questions, qu'elles soient positives ou négatives, doivent être traitées de manière collective. Donc on arrive toujours à cette question, à buter l'institutionnel, la question de l'implication des autorités, etc. La question, c'est une question de tempo. Est-ce qu'on attend que tous les problèmes fonciers soient résolus? Est-ce qu'on attend que l'opérateur soit là? Est-ce qu'on attend que la municipalité... Non. Enfin, à mon avis, l'urgence est là, il faut y aller. Et en marchant... Ben on suscite le désir d'implication, etc.
Les multinationales qui commercialisent de l'assainissement, de l'eau, tout comme d'ailleurs les politiques et les États, disent « Ah oui, mais de toute façon, les gens ne payent pas, les gens ne sont pas fiables. » Quelle est la solution ?
Alors moi, je suis tout à fait opposé. Alors, je ne sais pas d'où ça va, parce que ça dépend. D'abord, quand on parle à des gens qui viennent de multinationales, ce n'est pas toujours le discours. Non, moi, je pense que les gens, ils payent. D'ailleurs, souvent, ils payent beaucoup plus cher avant. Ils sont prêts à payer pour peu qu'il y ait un service, comme ils sont comme tout le monde, et pour peu que ça soit adapté à leur mode de vie. Voilà.
Exemple ?
Par exemple, sur l'eau, si vous demandez...
Payer à la semaine, si on a, par exactement, exemple, de tout petit si revenu,
vous...
c'est ça?
Tout à fait. Un exemple, si vous demandez à une famille d'un bidonville aux Philippines de payer une facture d'eau à 2 km de chez elle par quelqu'un qu'elle ne connaît pas tous les deux mois, ça ne marche pas. Si c'est tous les jours à domicile par quelqu'un qu'elle connaît, ça fonctionne. Et surtout que, on peut vérifier qu'elle ne consomme pas trop, qu'il n'y a pas de fuite, que le robinet fonctionne bien. Il y a tout un tas de petites choses, de liens, de proximité qui fait que ça marche. Et c'est un modèle de business au-delà de la question des plus pauvres.
Laure Créqui, à l'automne prochain, on aura le grand forum international organisé par les Nations Unies Habitat 3 qui se déroulera à Quito en Équateur. Je sais que vous allez y aller. Ça sera un peu la COP21 de l'habitat et des villes pauvres, surtout, puisque 90% de la croissance urbaine est concentrée dans les pays en développement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Habitat 3 à part du grand blabla?
Écoutez, les négociations sont encore en cours sur ce qui va se décider à Habitat 3. Moi, il me semble que ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on est là sur le premier événement international, mondial, sur les villes, dans un monde urbain. Et donc, où finalement, traiter de la question des villes, c'est plus seulement traiter de la question des villes seules, mais c'est juste réfléchir sur comment est-ce qu'on va fonctionner tous ensemble dans ces espaces où il y a de plus en plus de gens et où il va y avoir de plus en plus de gens. Donc la question à partir de là va être d'essayer d'arriver à savoir quelle ville on veut à partir de ça et quelle est la place, justement, je pense, de manière très intéressante, des habitants dans ce processus. Et il y a une grosse différence, je dirais.
Savoir les écouter, leurs besoins, ce qu'ils ont à dire et comment ils ont envie aussi que les projets soient gérés pour les services essentiels.
Tout à fait. Et en l'occurrence, les habitants ont énormément participé à la préparation d'Habitat 3.
Merci à vous trois, Guillaume Josse, Philippe Deroux, Laure Créqui. Tout est noté sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins, vos sites, vos ONG respectives, etc. Merci aussi à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, à la veille du référendum sur le Brexit. Nos voisins anglais, si loin, si proches sont-ils des Européens comme les autres? À demain.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO.